9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous, il y a de la violence dans l'air et mon premier invité pense qu'il est grand temps de l'apaiser. C'est Jean-Pierre Mignard, l'avocat proche d'Emmanuel Macron qui va plaider auprès de lui pour l'indemnisation sans délai des nombreuses victimes de violences policières. Il y a de l'orage aussi au Vatican où le camp conservateur repasse à l'offensive contre le pape François en paraissant avoir enrôlé son prédécesseur Benoît XVI. Une guerre des deux papes, l'écrivain et journaliste Henri Tinck va nous éclairer. Au sommaire également, un débat compliqué, sinon interdit, sur les OGM. Un documentaire américain qui les défend a beaucoup de mal à se faire voir en France. Son distributeur va nous raconter. Et puis un monstre sacré de la musique de film, Ennio Morricone, qui fait l'objet d'une anthologie inédite conçue par Stéphane Le Rouge. Occasion de réécouter quelques-unes des plus de 500 bandes originales composées par le maestro.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Bonjour Jean-Pierre Mignard.
Bonjour.
Avocat, ancien compagnon de route du PS, vous avez rejoint Emmanuel Macron durant la présidentielle, mais votre parole est libre. Avant d'en venir aux violences policières, quelques mots sur la journée d'hier. Une émission de radio interrompue par des manifestants, une intrusion à la CFDT, une tentative d'intrusion dans le théâtre où le président passait sa soirée. C'est grave ou c'est compréhensible après un mois et demi de lutte que les opposants se fassent entendre différemment?
Alors on peut s'indigner sur chaque événement particulier. Sur l'intrusion dans le siège de la CFDT, ce qui est grave, c'est que des syndicalistes, se disant tels, se livrent à des actions comme cela contre d'autres syndicalistes. D'ailleurs, je remarque d'ailleurs que la CGT et FO ont condamné nettement et sans appel une action de cette nature. Donc ça, c'est contraire à l'histoire syndicale, à la culture syndicale, c'est la première chose. Deuxième chose, on peut penser ce qu'on veut du président de la République, il a le droit quand même d'assister à une représentation théâtrale. D'abord, il n'y a pas que lui, il y a tous les gens qui écoutent, donc ça, il faut quand même ça, non. Ça, mais je veux dire, je ne vais pas m'indigner, parce que tout le monde s'indigne. J'en pense pas du bien. Mais ce qui devient intéressant à un moment donné aussi, c'est comprendre pourquoi on en est là et pour faire en sorte que ça s'arrête. Et il y a en France maintenant, depuis maintenant assez longtemps, une séquence sociale d'une extrême violence, un monde souterrain et des pactes qui se déchirent et des fissures qui s'accroissent.
Ouais, le prolongement aujourd'hui du mouvement des Gilets jaunes,
oui,
certains parlent d'une gilet jaunisation,
oui,
du mouvement
alors
social.
Ça, c'est exact. Alors, ce n'est pas uniquement imputable à Emmanuel Macron. Il y a longtemps, l'entrée de la France dans la mondialisation libérale, dont à un moment donné, on a pensé qu'elle était heureuse, et aujourd'hui, qui montre quand même qu'elle est beaucoup plus rude dans ces aspects, fait que, comme je le dis, des pactes semblent aujourd'hui se déchirer et il faut faire attention. Et je crois qu'une des grandes préoccupations qu'on doit avoir, c'est comment recoudre la société française, comment protéger la société française et la recoudre. Et il ne faut pas l'exposer au grand vent sans effectivement la protéger. Donc, pourquoi ? Il y a de la peur, il y a de la crainte, elle est partagée, elle est assez générale. Elle est générale parce que la crise de 2008 a fait un traumatisme qui ne s'oublie pas. Aujourd'hui, l'incertitude financière, on se dit, ça peut revenir. Deuxièmement, nous avons la crise climatique, alors là, qui constitue un point tout à fait important. Je rajoute à ça la révolution numérique, qui est un immense progrès dans combien de domaines, mais qui s'accompagne de combien d'emplois vont être détruits, quelle va être notre place dans une société où l'humain ne sera peut-être plus la maîtrise des choses, là où on pensait peut-être qu'il l'avait. Vous voyez, il faut prendre en charge. Il ne faut pas mépriser les peurs. De toute façon, les humains ont toujours peur. Ouais. Nous avons tous peur de quelque chose, à commencer par notre propre mort un jour. Donc nous sommes commandés par cela. Donc il faut comprendre, s'expliquer, mutualiser, partager. Puis se traiter quand même avec un souci d'égalité. En France, l'égalité, c'est très important. La France est un pays très politique et où le concept d'égalité est fondateur.
Je vous ramène d'un mot, d'une question à la politique. Ces actions commando, elles laissent penser Emmanuel Macron ne peut plus mettre un pied dehors et qu'il a atteint un niveau de détestation inédit pour un président de la République. Qu'en pensez-vous ?
Alors, qu'un certain nombre de personnes, de groupes, de mouvements le détestent, on ne va pas faire de langue de bois, ça me semble une évidence. Deuxièmement, il n'est pas supportable pour un pays que le président de la République ne puisse plus bouger ou ne puisse pas faire l'objet d'agressions. Si on est, ce sont des agressions, appelons un chat un chat. Ou un chien enragé, un chien enragé. Alors, on peut s'indigner. Tout le monde s'indigne. C'est pas bien le président lui-même. Essayons de voir comment est-ce qu'on fait. Donc, il faut désarmer. Il faut recoudre. Et il faut faire des gestes. Même au moment où c'est le plus difficile, où l'affrontement est le plus fort, il faut faire des gestes pour faire tomber ce que l'on peut faire tomber de ressentiment, de rancœur et de vindicte. Ça, c'est essentiel. Sinon, ça ne fera que croître. Je ne sais pas où ça terminera.
Jean-Pierre Mignard, avocat pénaliste, spécialiste des libertés publiques. On marque une pause et vous nous direz pourquoi il est temps, selon vous, d'accorder réparation aux victimes de violences policières.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Continue avec vous, Patrick Cohen.
Avec l'avocat Jean-Pierre Mignard pour parler des violences policières, même si le pouvoir refuse toujours l'expression, il y a désormais changement de discours et rappel à l'ordre. Virage intervenu cette semaine après la mort d'un livreur lors d'un contrôle routier. Il s'appelait Cédric Chouvia. Après de récentes vidéos de brutalité et la recension de dizaines de blessés graves lors du mouvement des Gilets jaunes. Il était temps. Il y a eu un déni à vos yeux au sommet de l'État.
Un trop long déni. Alors, violences policières, il y a des violences commises par des fonctionnaires de police. Si on veut éviter les généralités, disons cela. En effet, ça me semble plus juste. Tous les policiers ne sont pas des gens violents, extrémistes, des bourreaux, des tyrans. C'est pas vrai. Donc tout le monde ne déteste pas la police. Je déteste pas la police. Simplement, quand on détient un pouvoir, quand on détient la force et l'usage de la force, ben, je suis désolé. En République, cet usage, il a pour contrepartie une vertu dans l'usage, un contrôle de l'usage. Et quand on excède ou qu'on abuse, ça, ce n'est pas bien. C'est peut-être un problème de commandement. Moi, je pense que dès l'origine, pour les Gilets jaunes, l'erreur a été de mal prendre ce mouvement et puis d'ailleurs, de mal le traiter. Le mal le traiter, c'était des gens qui n'avaient pas l'habitude de manifester. Il n'y avait pas d'encadrement, il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas des syndicats. Ils sont allés en effet un peu dans tous les sens avec une colère évidente qui relève du spasme, de l'émotion. Elle était légitime compte tenu de ce qu'il disait.
Avec une grande violence d'une partie des manifestants. Avec le gouvernement a beaucoup insisté là-dessus. La difficulté du maintien de l'ordre ceux qui en sont chargés subissent du harcèlement ou des agressions brutales.
Mais fallait prévoir, comme dit Mendès. Gouverner, c'est prévoir. Et puis la deuxième chose, fallait parler. Qu'est-ce qu'on a dit tout de suite? Un certain nombre de ministres dont j'aurais sur ce point la gentillesse de ne pas rappeler les noms, parler de peste brune, etc. Non, mais attendez, c'était la nuit de cristal, pardonnez-moi, c'était autre chose. Les hordes nazies dans les rues de Berlin, c'était autre chose. Là, on a une sorte de jacquerie sociale de notre monde. Fallait répondre autrement. Surtout qu'au début, les gens n'étaient pas de mauvaise composition. Ils allaient parler aux policiers, etc. Bref, ça a été très mal pris. Et ensuite, ça a été un engrenage de la violence, policiers blessés, manifestants blessés. Alors là, il y en a beaucoup.
Bilan terrible.
Oui, parce que je pense que vous voyez, ce que je vais dire est terrible. Moi, je me suis quand même beaucoup intéressé et impliqué dans des affaires qui concernaient les banlieues françaises. J'ai constaté que, bien souvent, le commandement, la police, on ne faisait pas beaucoup attention au maintien de l'ordre quand il s'agissait des gamins dans les banlieues. Parce qu'ils étaient à l'écart, parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, parce qu'on les connaissait peu. Et on s'autorisait un certain nombre de choses qu'on ne serait pas autorisé avec d'autres.
Il n'y avait pas les vidéos d'aujourd'hui.
Non, et il n'y avait pas les vidéos. Et j'en ai des exemples. Et j'en ai des exemples concrets, des exemples vécus. Et puis j'ai constaté, avec les Gilets jaunes, que c'était un peu la même chose. Que c'était des gens sans réseau. Que c'était des gens qui n'appartenaient pas ou qui n'avaient pas des connexions avec la presse, etc. Et donc, je trouve que les politiques de maintien de l'ordre nous donnent une bonne radiographie de la société française, avec, je suis désolé, peut-être un retour de société de classe. Donc, il faut réparer.
Comment?
Ces gens-là sont blessés. Et beaucoup sont blessés sans qu'on ait rien à leur reprocher. Il n'y a pas de procédure contre eux.
C'est-à-dire qu'il faut réparer
un pied
qui...
en moins, etc. Ils sont nombreux. Hein. Ils sont nombreux contre lesquels, effectivement, il n'y a rien à reprocher. Simplement, il y a beaucoup de blessés parmi les Gilets jaunes. Alors, indépendamment de ce que vous pensez, etc., on ne va quand même pas laisser ces gens toute leur vie handicapés et gravement handicapés. Alors, il y a des procédures, mais on ne retrouvera jamais les policiers qui ont tiré. Puis d'ailleurs, peut-être que les policiers n'ont pas tiré volontairement sur eux, pas du tout. C'est-à-dire que comme on tire de partout, on se prend des grenades directement dans un pied ou dans une main, des encerclements, il y a aussi des effets blasts, bref. Eh bien, il faut réparer. On va dire, ce sont nos concitoyens, on ne va pas les laisser toute leur vie avec ce handicap. Qu'est-ce qu'on avait fait en 88 au moment de l'affaire de Vaquet? J'étais avocat d'un certain nombre d'étudiants et d'étudiantes, dont certains avaient été très grièvement blessés lorsque, sur place des Invalides, ils avaient reçu des projectiles très violents. C'était la mort de Malik Ouskine. D'ailleurs, à l'époque, avec d'autres, j'avais créé les casques blancs. On avait, avec le retour au pouvoir de François Mitterrand, et grâce quand même à cet homme intelligentissime qui s'appelait Michel Rocard, et le secours d'un certain nombre d'autres, dont l'avocat général Louis Joinet, qui vient de décéder, ancien président du Conseil de la magistrature, on avait mis en place un système d'indemnisation. C'est-à-dire que l'administration disait, écoutez, on ne va pas se perdre dans des procédures interminables, on ne retrouvera jamais les gens, des policiers qui ont tiré volontairement et de ceux qui ont tiré sans vouloir tuer, ni encore moins blesser, parce que c'est ça la vérité est toujours beaucoup plus complexe. On prend sur nous-mêmes le fait de dire qu'il y a une responsabilité de l'administration et on va rentrer dans un processus d'indemnisation. Je vous assure, ça avait été un facteur de justice perçu comme tel et un geste de l'État qui avait été considéré comme étant une bienveillance civique, une bienveillance
donc,
politique.
On pourrait le faire aujourd'hui.
Mais bien sûr qu'on le fait.
Pour ceux qui ne sont pas poursuivis pour des violences contre les forces de l'ordre.
Il y a des procédures, parce qu'il y a aussi des policiers qui peuvent devoir se défendre quand même, pas exagérer. Et c'est au président de la République.
Vous allez lui dire directement, Jean-Pierre Mignard ?
Oui, je lui dirai, oui, je dois avoir un rendez-vous à la fin du mois avec lui, je le lui dirai tel quel. C'est à lui, président de la République, de prendre cette initiative. C'est pas pour ça qu'on l'aimera mieux, pour certains, c'est pas pour ça que quelquefois dans des théâtres, on ne pourra pas le perturber, mais je vous assure qu'une grande partie des citoyens dira « voilà un beau geste ».
Merci, maître Jean-Pierre Mignard. Merci d'être venu ce matin au micro d'Europe 1.
Europe 1.
Dans un instant, que cache la guerre des deux papes ? S'il y a une guerre, s'il y a bien une guerre, Henri Tinck sera notre prochain invité.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour Henri Tinck.
Bonjour.
Journaliste, Patrick. Écrivain, vous avez été le chroniqueur religieux du Monde pendant près de 25 ans. Auteur il y a quelques mois de Vatican, la fin d'un monde aux éditions du CERD, livre dans lequel vous faisiez au début le parallèle entre la crise au sein de l'Église et la chute du système soviétique. Alors d'abord, pour situer les choses, je voudrais que vous nous disiez quelle est l'importance du camp conservateur qui s'oppose aujourd'hui au pape François et résiste à ses réformes.
Numériquement, il n'est pas considérable, mais en termes de relais d'opinion, d'influence, soft power, comme on dit aujourd'hui, ce bloc conservateur, il est quand même très important. Il pèse quasi quotidiennement sur la politique du pape François, qui lui fait une politique d'ouverture aux immigrés, aux réfugiés, à l'islam, qui veut des réformes de la curie. Et c'est contre toutes ces réformes que le camp conservateur aujourd'hui se hérisse. Quoi,
hein, jusqu'au voilà. Sein de la curie,
bien sûr.
Avec le cardinal Robert Sarra, dont on a parlé cette semaine abondamment, puisqu'il est l'auteur ou le co-auteur de ce livre controversé qui appelle l'Église à ne pas céder aux mensonges diaboliques sur le célibat des prêtres, ouais. Et qui a mis en avant le nom de Benoît XVI, pape émérite, lequel a depuis fait retirer sa signature.
Alors voilà, les conservateurs se sont battus il y a quelques années sur l'avenir de la famille, qui est un thème cher aux catholiques, bien entendu, et qui est un thème central de la doctrine catholique. Ils se sont battus, je viens de le dire, pour la politique de François en faveur des immigrés qu'il conteste formellement. Aujourd'hui, ils ont trouvé un nouveau cheval de bataille, c'est le célibat des prêtres. Pourquoi la question aujourd'hui du célibat ressurgit ? C'est parce qu'il y a quelques semaines, s'est déroulé à Rome un synode dont on n'a pas beaucoup parlé, en dehors des milieux catholiques strictement parlé. C'est un synode sur l'Amazonie. L'Amazonie, c'est un peu loin. L'Amazonie, c'est un continent qui brûle. Mais l'Amazonie, c'est aussi une région du monde où il y a beaucoup de communautés catholiques. Et ces communautés s'inquiètent parce qu'il n'y a plus de prêtres. Donc, on ne peut plus célébrer la messe. Ces communautés sont sans lien, sont sans âme, quoi. Donc, c'est venir à cette question des communautés très reculées, des communautés où il n'y a plus de prêtres, que le problème aujourd'hui s'est posé lors de ce synode et aujourd'hui dans l'Église. Qu'est-ce qu'on fait ?
Qui s'est prononcé majoritairement pour la fin du célibat.
Pour des hommes mariés, pour combler cette lacune des prêtres qui n'existent plus ou très peu. Et la question, vous le devinez, se pose aussi dans d'autres régions du monde où il n'y a pas beaucoup de prêtres, en Afrique, en Allemagne et évidemment en France aussi. La question va se poser.
Donc François est devant un choix historique.
Le célibat des prêtres, c'est vraiment le sujet à venir aujourd'hui dans l'Église. Le pape François dit le célibat, moi j'y tiens, c'est historique, c'est la tradition de l'Église, je ne vais pas violer cette tradition de l'Église, mais dans des circonstances un peu exceptionnelles, dans les régions du monde très reculées, très pauvres en prêtres, pauvres en messes, pauvres en sacrements, il faut faire quelque chose. D'où l'idée de pouvoir d'ordonner des prêtres mariés, des hommes mariés. Et évidemment, c'est contre cela que les conservateurs se rebellent, comme le cardinal Sarah, dont on a parlé tout à l'heure, comme le cardinal Burke, un Américain qui a été placardisé par François, mais qui fait beaucoup de bruit aussi dans la curie. C'est contre ce célibat des prêtres, cette possibilité d'ordonner des hommes mariés comme prêtres, c'est contre cela que, et c'est là où on en vient à la guerre des deux papes,
alors,
c'est contre cela que le pape Benoît XVI ne peut pas ne pas réagir.
Réellement, ou contre son gré, est-ce qu'il est, a été érigé comme le porte-parole des conservateurs avec son assentiment?
Il n'y a aucun doute que Benoît XVI ne peut pas accepter l'idée de la fin du célibat des prêtres.
Mais est-ce qu'il a vraiment souhaité l'exprimer?
Toute sa théologie, il l'a sans doute exprimé. Ce qu'il n'a pas pu maîtriser, et c'est sans doute aussi un peu son tort, c'est l'exploitation éditoriale qui a été faite de ses opinions. Qu'il ait pu rédiger un petit livre sur le célibat des prêtres, oui, qu'il ait été comme cela, disons-le, manipulé,
instrumentalisé
par des courants conservateurs et par des milieux éditoriaux aussi liés à ce camp conservateur, il ne fait aucun doute. Donc là, il dit « je retire ma signature mais ça traduit un mal-être profond ». C'est quand même pas la première fois que le pape Benoît XVI émet des différences par rapport aux options du pape François. Il y a quelques semaines, il avait surpris un peu tout le monde en disant que la crise pédophile au sein de l'Église, c'était pas lié à ce que le pape François appelle le cléricalisme, l'excès de pouvoir donné aux prêtres. Mais pour lui, pour le pape Benoît XVI, c'est lié à la crise post-68-art. C'est ce qu'il appelle l'esprit de mai 68, l'abandon de toute norme sexuelle dans l'Église comme dans la société. Ouais. Là, c'est très différent de la position du pape François, pour qui c'est un problème interne à l'Église catholique.
Bien sûr.
Voilà, donc, que le pape Benoît XVI a des opinions qui peuvent diverger, donc sur la crise pédophile, sur le célibat des prêtres. La question est de savoir si, à la tête de l'Église, on peut continuer comme ça, avoir deux papes, avoir deux opinions, deux orientations.
Pour reprendre votre parallèle avec l'Union soviétique, dans l'URSS des années 80, il n'y avait pas de chef, hein, il n'y avait pas deux papes.
Exactement.
Henri Tin, crise morale avec les révélations de crimes sexuels sur les enfants et même sur les religieuses, crise de gouvernance, deux papes, crise doctrinale, ça fait beaucoup hein, pour une seule Église.
À mon avis, ça fait beaucoup. Et encore une fois, numériquement, ce camp conservateur est minoritaire. Le pape François est gêné aux entournures. Il n'a pas la totale liberté de son action de réforme dont il sent l'urgente nécessité.
Il y a quelques mois, il a prononcé un mot qui a été très remarqué, c'est le mot schisme.
Absolument.
En septembre.
Moi, je ne vais pas jusque-là. Je ne pense pas qu'il y ait un risque de schisme dans l'Église. Mais qu'il y ait aujourd'hui des divergences doctrinales, des divergences en termes d'orientation, et qu'elles s'expriment sur la place publique comme elles viennent de s'exprimer, oui, cela est vrai, cela est bon. Alors, est-ce qu'il faut encourager ce débat à la tête de l'Église? Ce n'est pas du tout habituel. Ce qui se dit aujourd'hui, c'est que ce camp conservateur prépare déjà la succession du pape François. C'est que le pape François, il en a assez, il va peut-être démissionner. Le débat est ouvert. Il y a une situation de crise à la tête de l'Église. Il est vraiment sain d'en sortir. Oui.
Merci beaucoup Henri Tin. Je rappelle votre livre « Vatican, la fin d'un monde » aux éditions du Cerf. Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, un débat interdit, un documentaire censuré, son sujet, les OGM. On va parler de ce film américain avec son distributeur français. À tout de suite.
Europe 1. Le samedi, de 9h à 10h, vous écoutez Patrick Cohen avec C'est arrivé cette semaine.
Je voudrais donc vous parler d'un documentaire américain sorti il y a 2 ans et demi. Il s'appelle Food Evolution. Il a été réalisé par un cinéaste réputé, nommé aux Oscars pour un autre film, Scott Hamilton Kennedy, avec une pléiade de scientifiques, dont l'astrophysicien Neil deGrasse Tyson, qui en fait le commentaire. Un film qui renverse le point de vue habituel des gentils écolos contre les méchantes multinationales, qui explique que les OGM, les organismes génétiquement modifiés, peuvent être une partie de la solution pour nourrir une planète de plus en plus peuplée et pourrait sauver des millions de vies si des campagnes de peur et de désinformation n'avaient pas banni ces OGM, notamment en Europe. Voilà, ce n'est pas du tout politiquement correct, mais ça mériterait d'être vu et débattu. Or, Food Evolution n'a quasiment pas pu être vu en France après un étonnant tir de barrage. Bonjour Eddy Agnassia.
Bonjour.
Vous êtes l'un des responsables de Deuxifilm, la société de distribution qui a acquis les droits de ce film en France. Vous saviez où vous mettez les pieds ?
Non, pas tout à fait. Je pense que quand on a eu l'idée d'acquérir ce film et de pouvoir le présenter au public français, on ne pouvait pas s'imaginer un tel tir de barrage, une telle opposition à la fois culturelle, je dirais même idéologique, concernant les OGM en France.
Il a été bien accueilli aux États-Unis, ce film, mais contesté tout de même, controversé. D'ailleurs, Netflix a refusé de l'intégrer à son offre.
Oui, Netflix là, a refusé parce que Netflix avait une ligne éditoriale qui ressemble un peu à la ligne éditoriale qui est présente aujourd'hui, c'est-à-dire Netflix diffuse principalement des films qui sont plutôt anti-OGM, anti-pesticides, anti-agriculture conventionnelle. Et ce film ne correspondait pas du tout à leur ligne éditoriale. Donc ils ont refusé justement de l'intégrer dans leur catalogue documentaire qui est disponible sur Netflix.
Vous, il vous semblait ce film utile au débat public, pertinent ?
Très utile, parce que je pense que c'est un film qui apporte un regard complètement différent sur l'ensemble des reportages, des films documentaires qui ont été diffusés à la télévision ou qui ont été distribués et programmés dans les salles, parce qu'on a un regard différent sur les enjeux et sur les défis de l'alimentation pour aujourd'hui et pour demain, à savoir sur l'agriculture conventionnelle, sur l'agriculture bio, sur la gestion des produits phytosanitaires et également sur les biotechnologies. Donc il y a une opposition très forte justement sur l'avenir et sur le développement des biotechnologies qui peuvent être une solution justement que l'agriculture bio et l'agriculture conventionnelle ne peut pas répondre.
Alors on va en écouter un court extrait de ce film.
À la base, le génie génétique, ou comme on l'appelle le GG, est une forme moderne de culture, ce que les agriculteurs font depuis des millénaires pour sélectionner les caractéristiques les plus avantageuses et fournir des aliments à une population grandissante. En plus d'aider des millions d'enfants à éviter des carences en vitamines potentiellement mortelles, les scientifiques ont aussi développé des cultures qui ont une tolérance à la sécheresse, comme le riz, le maïs et le blé, ce qui pourrait être capital face au changement climatique. Et la résistance aux maladies pour sauver des cultures telles que la papaye hawaïenne, pour leur éviter de disparaître.
Voilà une partie didactique de Food Evolution, mais on nous parle aussi et on montre le sauvetage de la papaye hawaïenne ou de la banane ougandaise par des variétés OGM ou du riz doré au Bangladesh. L'accusation qui revient le plus souvent, Eddy Agnassia, c'est que c'est un film de propagande.
Oui, on a taxé beaucoup ce film de pro-OGM. Moi, je pense que c'est plutôt un film pro-science. C'est-à-dire c'est un film qui se base sur des faits scientifiques, qui regarde un peu le consensus scientifique. Et je trouvais ça un peu étrange. C'est-à-dire qu'une personne qui conteste, par exemple, le changement climatique, on va lui ressortir justement le fait qu'il y a un consensus scientifique pour dire que ce réchauffement, il est sûrement dû à l'activité humaine. Et concernant les OGM, il y a un consensus scientifique qui dit que les OGM ne sont pas dangereux, qui ne sont pas dangereux pour la santé, et également les biotechnologies. Mais bizarrement, on ne suit pas ce consensus scientifique. Donc là, il y a une sorte un consensus scientifique à géométrie variable. Donc en fin de compte, pour le développement des biotechnologies, on nous explique que c'est dangereux. Donc je trouvais l'intérêt de diffuser Food Evolution, c'était d'apporter quelque chose de neuf aux spectateurs, qui soit pas, qu'on tombe pas facilement dans la dénonciation facile. Et je pense que Food Evolution, c'est la meilleure réponse à la grille bashing.
C'est vrai, il y a des arguments scientifiques et beaucoup de scientifiques qui prennent la parole. D'ailleurs, on entend les deux camps, même si les anti-OGM, certains anti-OGM sont un peu tournés en ridicule. Dans le film, on voit quelques extraits de conférences, mais on entend l'un et l'autre camp. Alors, sur l'accueil en France, vous saviez ce film controversé, mais pas au point d'être déprogrammé d'un festival, refusé pour les cinémas d'art et essai. Ça a été un parcours du combattant, un tir de barrage.
Ça a été terrible. On ne pensait pas qu'on allait se faire écraser par, je dirais, un mouvement, en fin de compte, qui est un mouvement, je dirais, presque anti-science, qui pour eux, les OGM, c'est quelque chose qui fait peur, le fait d'avoir touché à l'ADN d'un organisme. Mmh. Et en fin de compte, on s'est retrouvé avec des militants très actifs, des agroécologistes, qui ont appelé pour déprogrammer le film dans plusieurs salles de cinéma. On s'est fait évincer de plusieurs festivals. On n'a pas reçu de recommandations de la part du CNC pour obtenir un label. Qui bizarrement, d'autres films qui étaient très anti-OGM, très anti-pesticides, très anti-agriculture conventionnelle, eux ont obtenu ce label.
Pour le circuit ARS qui diffuse beaucoup de documentaires, qui permet de voir pas mal de docs sur grand écran.
Tout à fait, c'est ça. Et on a pu organiser aussi des séances de ciné-débat. Et là, à quel point j'ai pu constater qu'il y a une désinformation profonde sur ces sujets. Un public qui est abreuvé, je suis obligé de le dire, De plusieurs années de contre-vérité, de désinformation sur le sujet. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ce qui s'est passé dans le cinéma, c'est en train tout doucement d'arriver à la télévision. Et on voit que des agriculteurs commencent à s'en apercevoir. Ils commencent à définir le terme d'agribashing. Parce que dans ces émissions, on les présente un peu comme des agriculteurs qui empoisonnent, on va dire...
Ce que vous dites, c'est que les associations militantes ont pris la main sur la programmation des documentaires.
Ah oui, carrément. C'est assez flagrant. Vous pouvez regarder aller sur Internet, vous regardez la liste des films documentaires qui sont orientés agriculture et alimentation, et vous verrez, il n'y a que des films qui s'attaquent à l'agriculture et à la recherche scientifique.
Enfin, Food Evolution a tout de même été projeté dans une cinquantaine de cinémas en France, c'est ça. Et puis surtout, c'est comme ça que je l'ai vu, il est maintenant visible sur la plateforme Vimeo pour un peu plus de 4 euros.
Voilà, tout à fait.
En tout cas, le débat mérite d'être posé. Food Evolution, c'est le titre. Merci Eddy Agnassia d'être venu nous en parler.
Merci beaucoup. Europe 1.
Dans un instant, visite guidée d'un monument de la musique de film Ennio Morricone, servi par un coffret inédit conçu par Stéphane Le Rouge, notre prochain invité.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Évocation à présent d'un monstre sacré de la musique de film. Ennio Morricone, le maestro, né il y a 91 ans à Rome, il y vit toujours après avoir habillé en musique pas moins de 523 films. C'est ça Stéphane Le Rouge, bonjour, j'ai bon ?
Alors oui, il paraîtrait que ce soit 524 aujourd'hui, mais je ne sais pas, mais c'est autour de 523.
Stéphane Le Rouge, créateur il y a 20 ans de la collection Écoutez le cinéma chez Universal et concepteur de la plus grande somme discographique jamais consacrée à Morricone, un coffret de 18 CD, 400 titres. L'histoire c'est que vous aviez réalisé la même chose pour... Michel Legrand, un beau coffret que vous aviez offert à Morricone lors d'une rencontre à la Cinémathèque il y a un peu plus d'un an. Et le maestro vous dit...
Il me regarde droit dans les yeux, vous savez que c'est grosse bésique, un peu à la Jacques-François. Et il me dit, j'aimerais que vous fassiez un peu la même chose sur moi, si vous êtes d'accord. Et voilà, donc je me suis lancé dans ce long parcours du combattant, qui était passionnant, excitant, parfois compliqué, pour arriver à ce coffret.
Des mois d'exploration de cette œuvre monumentale et protéiforme, la preuve en une minute. Tears to you, Nicola and Bart, rest forever here. Il y avait là quelques notes de « Il était une fois en Amérique », « Le professionnel », « Sacco et Vanzetti », « Les incorruptibles », « Le bon, la brute et le truand », « Mon nom est personne », « Le clan des Siciliens », « Mission » et « Il était une fois dans l'Ouest ». Autant de musiques qui s'imposent, qui ne sont pas des accompagnements. Stéphane Le Rouge, on peut dire que Morricone à chaque fois fait partie du film et de l'histoire, qu'il imprime sa marque.
Quels que soient les cinéastes, quels que soient les sujets des films, quels que soient les acteurs à l'écran, il y a un son Morricone, il y a quelque chose qui n'appartient qu'à lui, qui fait qu'en deux mesures on le reconnaît.
D'autant qu'il compose avant le tournage et que parfois, comme chez Sergio Leone, la musique est diffusée sur le tournage.
Oui, c'est penser la musique en amont pour que la musique, déjà le metteur en scène s'y habitue et surtout fasse son découpage, sa mise en scène et sa direction d'acteur. Et c'est vrai que Leone disait « Mon meilleur directeur d'acteur, c'est Ennio Morricone ».
Autre singularité d'Ennio Morricone, les effets de contraste, les instruments pittoresques, les sons bizarres. Après le bon, la brute et son cri d'hyène qu'on vient d'entendre, on a eu une sorte de coassement humain. Extrait d'Il était une fois la révolution. On trouve aussi dans les musiques de Morricone une machine à écrire. Dans I comme Icare, une valse de Vienne déstructurée. Le beau Danube bleu façon Morricone dans La Clé, film érotique de Tinto Brass. Et encore une mélodie inspirée d'une sirène de police. Le clan des Siciliens dont on célèbre les 50 ans, Stéphane Rouge.
Ouais, c'est vrai. Mais c'est marrant ce que vous venez de faire écouter, c'est ça raconte aussi que Morricone est un compositeur qui est né dans un terreau, dans une famille qui est la musique moderne. Il aurait rêvé d'être un vrai compositeur de concert comme son compatriote Luigi Nono. Et quelque part, ce qu'il appelle lui la musique appliquée, c'est-à-dire la musique de commande, ouais, notamment dans la variété et après le cinéma, sont arrivés.
Différent de la musique absolue, c'est
voilà,
ça.
Voilà, ce qui est la musique de concert. Et je trouve que l'une des clés, l'un des mystères de l'énigme Morricone, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui, à travers le cinéma, qui doit toucher quand même un large public, c'est quelqu'un qui est toujours resté un expérimentateur.
Vous l'avez longuement rencontré, Ennio Morricone, c'est un personnage intransigeant, pas toujours commode. On se demande comment quelqu'un qui respire aussi peu la fantaisie peut se montrer aussi créatif et hétérodoxe.
Je crois que le mot paradoxe a été inventé pour lui. C'est vrai qu'il a une allure parfois.
C'est un moine soldat.
Austère, oui, c'est ça. Oui. Vous n'avez pas envie spontanément de partir en camping avec lui quand vous le voyez. Et c'est vrai que, bon, pour la conception de ce coffret, je tremblais un peu en allant le voir à Rome pour lui montrer un peu la thématique des différents CD. Et puis, il s'est révélé vraiment très bienveillant, très coopératif et pas du tout interventionniste et pas du tout, il n'a pas joué au censeur, du tout.
Au fond, vous savez, Stéphane Le Rouge, le personnage Morricone, enfin ce que j'en connais en tout cas, ce que j'en perçois, son souci de la perfection, sa maniaquerie me font penser à ceci. Sur un citoyen au-dessus de tout soupçon dont le côté mécanique et obsessionnel avait tapé dans l'oreille de Stanley Kubrick. C'est ce qu'il voulait pour Orange Mécanique.
Oui, c'est-à-dire que c'était un album. Kubrick avait aimé le film, il avait encore plus aimé la musique. Il écoutait l'album en boucle, il s'est dit c'est ce dont j'ai besoin pour Orange Mécanique. Et Kubrick a appelé Sergio Leone qui lui a dit « Ah non, mais tu sais, en fait, Ennio, j'ai besoin de lui. On est au début du mixage d'Il était une fois la Révolution ». Et en fait, c'était faux. Ils avaient quasiment terminé le mixage. Donc Sergio Leone a volontairement saboté la collaboration potentielle de sa chose, de sa créature, avec un autre cinéaste.
Il a kidnappé Morricone. Morricone, un compositeur savant d'expression populaire, dites-vous, Stéphane Le Rouge. La preuve avec cette BO d'un film du dimanche soir. Sur la ville d'Henri Verneuil avec Belmondo. Pourquoi ça vous semble emblématique du talent de Morricone?
D'abord parce qu'il y a deux solistes vraiment qui font partie de cette amicale, de ce premier cercle des musiciens de Morricone, le siffleur Alessandro Alessandroni et l'harmoniciste Franco De Gimini qui est l'harmonica d'Il était une fois dans l'Ouest. Et il écrit ce truc très lyrique avec ce sifflet vraiment lyrique, cet ostinato piano dans le grave et cette partie centrale à l'harmonica qui raconte le chaos mental du tueur psychopathe Minos qui terrorise Paris. Et je sais que cette musique, pour des tas de compositeurs, pour Alexandre Desplat, pour Laurent Petit-Girard, c'est vraiment un des phares, une des grandes balises du Morricone des années 70.
Elle se remarque d'autant plus, cette musique, qu'elle donne beaucoup de relief à un film qui, il faut le dire, est assez banal. Des inédits, des raretés, des versions chantées dans votre coffret Ennio Morricone, musique de film 64-2015. Morricone a composé des partitions magnifiques pour des films qu'on a oubliés, par exemple Orca. La voix qu'on entend, cette voix splendide, c'est celle de quasiment toutes les musiques avec voix de Morricone.
C'est une soprano, comment dire, au timbre magique, comme ça, on a l'impression qu'elle flotte, qu'elle est en lévitation. Elle s'appelle Edda del Orso et elle a accompagné Morricone, mais sur, je ne sais pas, quasiment 100 bandes originales. Et Morricone, d'ailleurs, avec un peu de cruauté, aujourd'hui le dit, j'adore la voix d'Edda, sinon j'aurais pas autant travaillé avec elle, mais j'ai un peu, parfois, l'impression d'en avoir un peu abusé, d'en avoir fait un peu une signature. C'est-à-dire que quand on engageait un peu à travers moi aussi, Edda del Orso. Mais voilà, néanmoins, il y a une magie de cette voix, de son phrasé.
Et dans votre coffret aussi, des inédits, des raretés, on l'a dit. Chico Buarque, Morricone a arrangé tout un album de Buarque. Sting qui chante, Aznavour, une chanson arrangée, c'était le début de Morricone comme arrangeur. Ennio Morricone, musique de film entre 64 et 2015. Et puis, je signale aussi ce vinyle pour le clan des Siciliens, Stéphane Rouge.
Oui, facsimilé du vinyle d'origine pour fêter les 50 ans du film.
Merci Stéphane Rouge.
Merci.
Voilà pour aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain 9h10 pour C'est arrivé demain et après le clan des Siciliens, le clan des médias politistes. Avec vous, bonjour Olivier Duhamel.
Bonjour Patrick Cohen.
Votre invité ce matin, avec Catherine.
Je suis pas sûr que vous le connaissiez, Zvonimir Novak, qui est à la fois professeur d'art appliqué et journaliste, et il est spécialiste de l'imagerie politique.
Eh ben j'aurai le plaisir de le découvrir. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Europe 1.